Mamzelle Bulle. Mamzelle Bulle sur Radio Campus Paris.
Bonjour à tous, 18h sur Radio Campus Paris, l'heure de votre dose hebdo de bande dessinée en mode audio. Et cette semaine, c'est à Frédéric Peters que j'ai tendu mon micro. Il signe avec Louis Fang L'odeur des garçons affamés, un western aux accents fantastiques.
Le western, c'est juste pour moi un espace de jeu, en fait. Le western, c'est un genre cinématographique avant tout. Alors si on en regarde des dizaines et des dizaines, on se rendra compte que, oui, il y a des grands codes qui se dégagent, mais il y a aussi énormément de jeux avec les codes dans le western. Alors là, on s'autorise des choses peut-être un peu plus contemporaines, avec des questions sur l'homosexualité ou le capitalisme. Mais en fait, même l'homosexualité et le capitalisme, je suis sûr qu'on peut en trouver dans énormément de westerns qui ont l'air a priori très classiques, hein.
Et vous étiez un adepte des westerns, je crois que vous étiez plutôt un amateur éclairé des westerns cinématographiques, mais pas tellement en bande dessinée.
Non, pas tellement en bande dessinée, ouais, je suis passé un peu à côté. Probablement parce que le pape du western en bande dessinée, c'est Giro Moebius, et moi j'ai découvert Moebius à l'adolescence, mais par le versant Moebius. Et du coup, tout le côté Giro me semblait être le bureau, en fait, pour lui. Voilà. Du coup, ça m'attirait moins que ces séances de récréation, de science-fiction, quoi. Par contre, le cinéma, ouais, énormément. Ouais. Depuis la dernière séance dans les années 80, mais même plus récemment, depuis l'avènement du DVD et tout ça, j'ai bien fait mes devoirs.
Ça faisait un moment que vous vouliez travailler ensemble avec Lou. Je crois qu'elle vous a proposé plusieurs projets. Pourquoi celui-ci a attiré votre attention? Qu'est-ce qui vous a plu dans cette proposition?
Pour être honnête, je ne m'en rappelle plus. En lisant les interviews de Lou, je me rends compte qu'elle dit qu'elle m'a proposé 3 histoires. Je ne me rappelle absolument pas des 2 autres histoires. Donc je pense que ça a dû être une évidence de choisir celle-là. En fait, on a assez peu modifié depuis la première proposition. On a rajouté des choses. Mais tous les éléments forts et un peu pervertis, on va dire, du genre western étaient déjà là. Donc moi, dès qu'il y a un jeu avec les codes et dès qu'il y a de l'onirisme, de l'étrangeté, tout ça, a priori, ça m'attire sans trop de problèmes.
Et justement, vous avez évoqué l'onirisme. C'est vrai que c'est une partie importante aussi de cet album, la part fantastique. C'est quelque chose qui vous a convaincu que c'était une histoire que vous aviez envie de raconter?
Oui, bien sûr, mais ça, c'était déjà présent dans les autres histoires de Lou. Il y a une étrangeté depuis le début. Il y a un rapport au désir, à la sexualité, tout ça. Il y a un truc... J'écoutais une interview il n'y a pas longtemps qu'elle donnait, puis elle rappelait ce passage d'un de ses livres précédents où il y a un personnage qui trempait son sexe dans un plat d'anguilles. Voilà, ça c'est le genre de choses qui a dû me plaire énormément. Si elle m'avait écrit un récit extrêmement classique sans aucune image de ce type-là, j'aurais été déçu.
Et justement, vous le disiez, le scénario a assez peu changé par rapport à la première version qu'elle vous avait fait lire. Vous avez ajouté des choses ensemble. Justement, c'est sur quels éléments que vous avez pu retravailler ensemble ?
Si je ne suis pas trahi par ma mémoire, il me semble que le personnage maléfique de l'histoire, le chasseur de primes zombie, là, était absent. Tout le reste était là, par contre. Alors l'ambiance très forte, il y a des images très fortes. Moi, quand je lis un scénario, il faut qu'il y ait des images très fortes qui apparaissent tout de suite. Il ne faut pas que j'aille les fabriquer par du travail. Il faut qu'elles apparaissent tout de suite. Et généralement, elles apparaissent dès le début et elles ne bougent plus jusqu'à la fin. Là, il y en avait une série comme ça, tout de suite évidente, quoi. Mais je trouvais qu'il manquait un moteur de suspense à l'histoire. C'est-à-dire qu'on avait tout le côté contemplatif, des gens qui avancent dans un espace ouvert et probablement mental, d'ailleurs. Mais il n'y avait pas de menace. Et pour moi, un des éléments qui fait le western, c'est l'affrontement, quand même. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui doit faire face à un autre, quoi. Alors, sans aller jusqu'au duel dans la rue centrale, mais il faut qu'il y ait une opposition, ce que moi j'appelais un moteur à l'histoire.
Vous évoquez les images que pouvait vous évoquer la lecture du scénario dans le côté justement de dessiner cette histoire. Qu'est-ce qui vous a le plus plu ?
Un des éléments qui m'ont décidé à faire du western, enfin à choisir le western, c'était d'abord les chevaux. Par masochisme probablement, parce que en fait c'est très difficile de dessiner les chevaux. Alors c'est une des raisons pour lesquelles je crois les gens font du western, les dessinateurs. Non, soit pour... affronter un démon comme ça, qui serait le cheval, soit pour y prendre du plaisir simplement, parce qu'en fait, au bout d'un moment, on y prend un réel plaisir. Moi, je crois que la chose qui m'a le plus plu tout de suite, c'est toutes les séquences sensuelles, en fait. C'est-à-dire de dessiner des corps, le désir et l'ambiguïté sexuelle, voilà. Je pense que c'est ça qui m'a plu avant tout. Vous savez, en fait, on fait des livres, enfin moi en tout cas, les uns par rapport aux autres. Ils rebondissent les uns par rapport aux autres. Alors moi, quand je viens de passer 4 ans à faire de la science-fiction, où j'ai pas eu la possibilité de dessiner un sapin, par exemple, ou alors chaque fois que je devais dessiner un arbre, il fallait que cet arbre soit extraterrestre. Et là, j'avais envie de quelque chose de sensuel, en fait, dans tous les sens du terme, que ce soit sur le plan de la sexualité, mais sur le plan des chevaux, de la lumière, du vent dans l'herbe, des rochers aussi. Voilà, ça, j'adore dessiner les rochers. En fait, je pense que c'était un travail très sensuel pour moi. Voilà, c'est ça. Puisque toute la partie pénible ou compliqué qui consiste à trouver ce qu'on va raconter et pourquoi on le raconte. Moi, ça, c'est la partie qui ressemble à un accouchement. Là, c'est la partie la plus compliquée. Tout le reste, en fait, c'est de la technique ou même quand tout ça est bien ficelé, il ne reste que la sensualité du dessin, en fait. Ouais. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça, en fait.
Et par rapport à ces grands paysages, vous évoquiez les rochers, l'herbe, vous avez dessiné, créé ces décors sur les images que vous pouviez avoir des westerns, des grands espaces, ou est-ce que vous avez été rechercher des images plus spécifiques pour réaliser cet album ?
Bon, alors déjà, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que le scénario de Lou est écrit de façon très précise. Alors, pas du tout dans le découpage et dans le rythme, mais dans ce que contiennent les images. Par exemple, tous les décors sont signifiants dans ce qu'elle a écrit. Hein. Si le livre commence dans un décor vertical, phallique, donc, et s'il termine dans des grandes plaines très douces, comme ça, beaucoup plus féminines, tout ça est écrit dans le scénario. Voilà, à un moment, ils sont au bord d'une rivière, parce qu'un des personnages doit être dans la rivière et l'autre hors de la rivière. Enfin, moi, je suis contraint par les éléments contenus dans le scénario. Hein. Quand deux personnages se retrouvent dans une petite caverne enchâssée dans une paroi rocheuse, j'ai pas 36 solutions, il faut que je dessine ce qui est écrit. Alors après, ce qui est rigolo, c'est que je suis assez peu allé chercher dans l'imagerie américaine, en fait. Il se trouve que j'ai fait un voyage au Maroc l'été, avant de commencer l'histoire. Et donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont en fait des paysages marocains, mais qu'il faut adapter, qu'il faut un tout petit peu tordre pour que ça devienne américain. Mais en fait, il ne fallait pas que ça devienne totalement américain non plus. Moi, j'avais une envie d'étrangeté depuis le début. Je pense qu'il y a de l'étrangeté depuis le début dans cette histoire. C'est affiché western parce que ça s'ouvre sur Texas et on parle de la guerre de sécession, etc. Mais en fait, ce décor pourrait être sud-américain, africain. Par exemple, la rivière dont je vous parlais, c'est un oued marocain, en fait, assez fidèlement reproduit.
Et par rapport aux personnages, encore une fois, vous disiez que pas mal d'images avaient pu vous venir spontanément. Est-ce que les personnages, vous les avez eus rapidement aussi, ou est-ce qu'ils ont été plus compliqués à trouver ? Et justement, quand vous parlez de jouer sur l'ambiguïté, est-ce qu'il y a eu des recherches, justement, par rapport à cette ambiguïté, de comment dire des choses sans trop en dire, sans trop en montrer ?
Oui, alors là, vous me coincez parce que du coup, je dois pas spoiler l'histoire. De nouveau, les personnages sont définis par le scénario et par ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'il y en a un qui n'est pas américain, qui est irlandais, dandy, très distingué. Il y en a un autre, c'est le riche propriétaire terrien, donc l'archétype est totalement différent. Et puis le troisième, c'est un jeune homme de ferme, mais qui doit dégager une ambiguïté sexuelle. Donc voilà, après, déjà, leurs habits sont à peu près prédéfinis. Il y en a deux qui sont fins et élégants, donc comme il n'y a que trois personnages principaux, le troisième, de façon presque évidente, devient un peu rondouillard. Et puis après, il y avait ce qui était décrit dans le scénario de Lou, quoi. Notamment le personnage du photographe irlandais. C'est un dandy irlandais, donc déjà, il n'y a pas 36 solutions. Mais ensuite, elle a même été assez précise, et puis on s'est arrêté sur une espèce de croisement entre le Dao des années 80, ou avec une touche de David Bowie. Elle voulait un peu de Rupert Everett, mais moi, je ne le sentais pas, Rupert Everett. Le gros propriétaire terrien m'a tout de suite parlé du père de Scarlett O'Hara dans Autant n'emporte le vent. Voilà, oui, j'ai un peu tâtonné pour les personnages, parce qu'il fallait que je les ai en main au moment... Parfois, j'ai le défaut, dans le passé, de commencer trop vite, et du coup, les personnages se modifient au cours du dessin, parce que je ne les ai pas assez entraînés au début. Donc là, je l'ai bien fait, ils bougent assez peu, quoi.
Et par rapport au chasseur de primes, justement, qui a été ajouté, là, pareil, comment est-ce que... Parce que pareil, il faut être à la fois dans un réalisme, en même temps être dans une part déjà un peu fantastique. Comment est-ce que vous avez trouvé le juste milieu, finalement, le bon équilibre pour créer ce personnage ?
Lui, il est venu assez vite, parce que ça fait partie des images qui apparaissent tout de suite, étant moi, j'ai de la peine à me départir ensuite. Oui, alors lui, je l'ai assez vu déjà très vite marcher comme le personnage d'Henri Fonda dans Il était une fois dans l'Ouest. Alors ça, c'est parce que il n'y avait aucun des autres personnages qui marchait comme ça, c'est-à-dire cette espèce de... à la fois d'élégance, un peu morbide, mais en même temps, il est un peu affaissé. C'est-à-dire qu'Henri Fonda, c'est intéressant. Il portait ses pantalons très hauts. Il devait avoir la ceinture sur le nombril, je pense. Donc ça lui faisait un tout petit torse et des bras très longs. Il mettait un peu le bassin en avant, quoi. Donc ça lui donne une démarche et une allure très particulière. Et puis alors après, pour le côté zombie, moi, je devais avoir 10 ou 12 ans quand Niki Lauda a eu son accident de Formule 1. Et j'ai un souvenir assez fort de ce truc-là. Et de le voir revenir aussi, ouais. Et avec cette gueule incroyable. Très vite, l'association Henri Fonda, Niki Lauda post-accident s'est imposée.
Vous l'avez évoqué, le personnage du dandy Oscar et photographe. C'est quelque chose qui met en perspective, justement, parce que ça évoque les lumières aussi, les décors, et ce qu'on représente, et de quelle manière on utilise aussi un outil qui permet de capter une réalité.
Oui, puis c'est le mensonge aussi, c'est l'illusion. En fait, c'est... Voilà, vous me demandiez ce qui m'avait accroché, il y a aussi ça, je pense, c'est-à-dire j'ai toujours aimé de parler de ça dans les histoires, c'est-à-dire les faux-semblants, les petits mensonges, les trahisons, la photographie, elle fait écho à ce qui se passe chez les personnages dans l'histoire. C'est-à-dire, il a dû fuir, il fuit un passé de mensonges. Après, y a tout le côté magique de l'histoire chamanique, y a des doubles fonds partout, et c'est aussi pour ça que le récit est intéressant, c'est-à-dire que c'est un récit qui est très précis, puis en même temps il y a de la place, d'abord pour moi, pour le dessinateur, mais il y a de la place pour le lecteur aussi. Il y a des échos, il y a des jeux, il y a des mises en abîme, il y a des images dans les images, il y a des images qui s'inversent, il y a des images qu'on retrouve du début et qui réapparaissent mais perverties vers la fin, etc. Donc c'était hyper cohérent d'utiliser la photographie pour ça, en dehors du fait qu'il y a une raison historique, c'est-à-dire que d'abord elle représente la modernité, la photographie, c'est le nouveau monde qui tente de saisir l'ancien, quoi. Et puis parce que ce que ça raconte, c'est qu'en fait c'est une expédition photographique, comme ça a existé, comme on en a envoyé au milieu du 19e, où on envoyait des gens photographier le Grand Ouest, encore vide à l'époque, pour séduire les gens de l'Est, pour leur dire, regardez, tout ça vous attend, tout ça vous appartient, quoi. C'était presque publicitaire, en fait. La photographie, du coup, il y a plein de ramifications là autour.
Et vous parliez de l'espace que pouvait vous laisser cette histoire à vous en tant que dessinateur. Qu'est-ce qui vous a le plus éclaté, en fait, dans le dessin ?
Le premier plaisir, c'était de changer de technique. C'est-à-dire que pendant très longtemps, moi, j'ai dessiné au pinceau. Et là, je suis passé à la plume et au lavis. Voilà, c'est ça qui change. Le premier plaisir, il venait de là, en fait. Il venait du fait que mon dessin faisait du bruit, tout d'un coup. C'est-à-dire que pendant des années, il y avait une espèce de chointement délicat du pinceau, comme ça. Puis là, ça gratte, ça fait du bruit. Et le fait de traiter toutes les ombres et les lumières avec des lavis colorés, avant la couleur informatique, là, il y avait beaucoup de choses très plaisantes. Ouais. C'est assez jouissif de faire une ombre sur un corps nu ou sur un cheval. Ou par exemple, la lumière qui passe à travers un feuillage, par exemple. C'était ce genre de plaisir.
On sent toute l'importance des couleurs et de la lumière dans cette histoire.
Oui, ça, c'était la dernière phase. Ça allait très vite, comme une espèce de transe très courte, comme ça. Énormément de plaisir à faire ça, ouais. Tout d'un coup, à oser certains jaunes pétants. Dans la science-fiction, par exemple, que j'avais fait juste avant, les ciels étaient presque métalliques, comme ça, avec des dégradés volontairement un peu pop, quoi, un peu synthétique, en fait. Et là, je voulais retrouver un truc organique, donc j'ai fait toute une série de taches d'encre que j'ai passées en négatif pour faire les nuages. Je pense qu'une bonne partie de la lumière des ciels vient des nuages. Tout ce qui était très plaisant aussi, c'était les passages de nuit, parce qu'il y a beaucoup de passages sensuels qui ont lieu de nuit. Alors il fallait les rendre visibles, mais en même temps sombres comme il faut, quoi, pour rajouter du trouble. Je ne l'ai pas formulé, mais en lisant l'album, je me suis rendu compte que les séquences de nuit ressemblaient à de la nuit américaine, comme dans les westerns des années 50, où en fait on filmait de jour et ensuite on mettait des filtres pour faire croire que c'était la nuit. En fait, les couleurs aussi, elles renforcent un côté studio. Moi, il y a beaucoup de western cinéma que j'adore. Quand il y a la sensation du studio. Et ça, c'est beaucoup de westerns des années 40 ou début 50 avec le Technicolor très fort comme ça. Ou par exemple, il y a des passages dans La Prisonnière du désert où on voit très bien que le décor, tout d'un coup, n'est plus réel. Il y a beaucoup de passages filmés dans la Monument Valley où on voit que tout ça est réel. Puis tout d'un coup, ils arrivent dans un petit coin de forêt ou dans un marécage sous la neige. Et tout ça est totalement faux. On voit que c'est faux. Il y a presque un côté film de samouraï japonais des années 60. Comme ça. Alors ça, je l'avais en tête. D'ailleurs, je l'ai marqué plusieurs fois dans le scénario. J'ai marqué studio, ici studio, ambiance studio.
L'odeur des garçons affamés, c'est de Louis Fang et Frédéric Peters et c'est publié chez Casterman. Mamselle Bulle, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez trouver le podcast de cette chronique sur le www.radiocampusparis.org. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, 18h sur Radio Campus Paris pour une autre rencontre bande dessinée. D'ici là, je vous souhaite plein de belles lectures.